Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick.
Bonjour à tous et puis bonne année.
Bonne année, oui.
Bonne année, bonne santé et puis plein de bonnes choses.
Le meilleur possible.
Le meilleur possible et puis beaucoup de livres. Bonjour et bonne année aussi à Jimmy.
Le meilleur pour Jimmy.
Le meilleur pour Jimmy et beaucoup d'enregistrements et beaucoup de personnes qui viennent et qui passent un moment très agréable.
Pour bien animé Radio B.
Bien animé Radio B, a-t-elle dit. Aujourd'hui, nous vous invitons à accueillir trois personnes de la littérature, connues et méconnues, on va dire.
Je dois dire que je ne les connaissais pas. Enfin, si, à part un qui est bien connu.
Oui.
Mais même celui qui a fait le livre. Et il a pourtant été primé, hein, il a eu un concours, je ne connaissais pas.
Oui, donc cet écrivain dont vous parlez, que vous connaissiez bien depuis longtemps, il a pour nom...
Blaise Cendrars.
Blaise Cendrars, voilà, Blaise Cendrars, ça évoque beaucoup de choses. Et puis l'écrivain aussi qui l'a fait renaître de ses cendres.
C'est François Sureau.
François Sureau, voilà. Écrivain d'aujourd'hui.
On va parler du livre, d'ailleurs.
Et le livre, le livre qu'il a commis, c'est « Un an dans la forêt », François Sureau, de l'Académie française. C'est un récit qui est sorti à l'automne 2022 chez Gallimard, à la NRF. C'est un livre qui se lit facilement, mais il faut le reprendre quand même, parce que le style rappelle parfois un tout petit peu Blaise Cendrars. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs.
Ils sont très proches l'un de l'autre.
Très proches l'un de l'autre. Ce qui les rapprochait, ces deux choses, avait dit Sureau sur une chaîne de radio, les Ardennes, la forêt des Ardennes.
Ben oui, parce qu'il y en a un qui était élevé en Suisse et voilà. L'autre en Belgique.
Voilà, à peu près. Et puis aussi la Légion étrangère, voilà. Car Blaise Cendrars était légionnaire et puis François Sureau était officier de réserve dans la Légion étrangère aussi. Donc ils avaient deux points communs. Donc, ce livre nous fait quand même quatre...
Et la troisième.
Attends,
personne.
J'ai pas fini.
Ah bon.
Ce livre fait 92 pages, c'est pour les auditeurs. Il se lit très facilement, mais il faut le reprendre parce qu'il y a beaucoup d'allusions au passé. Et il n'est pas nécessaire de connaître l'œuvre de Blaise Cendrars, mais ça serait mieux si au moins on a quelques souvenirs. La main coupée, l'homme foudroyé, bourlingué, etc. Donc, nous avons donc aujourd'hui donc trois personnages et la dame. Elle se fait attendre, voilà.
Comme toutes les femmes, elles se font attendre.
Elles se font attendre, pomponnées, parfumées.
Et je ne sais pas si elle se pomponnait. C'était une véritable aventurière, elle.
Elle embaumait les chevaux.
Elisabeth Prévost, oui. Elle faisait de l'élevage des chevaux. Mais on peut parler d'elle, déjà?
Oui, un petit peu. Oh ben oui, c'est intéressant, parce que honneur aux dames.
Mais alors, c'est une véritable voyageuse, et elle est écrivaine aussi, hein?
Oui.
Bon, ça, moi, je ne le savais pas.
Oui.
Elle a été élevée comme une garçonne, un peu.
Très bien.
Dans une famille qui était aisée.
Voilà.
Son père, il avait accompagné le général Lyautey.
Ah oui, général Lyautey.
En Afrique.
Au Maroc.
Et elle avait un de ses grands-oncles qui était allé à l'école avec Arthur Rimbaud.
Arthur Rimbaud. Oui.
Donc, elle avait quand même une bonne éducation,
oui.
Mais elle était quand même particulière. Parce que dans sa jeunesse, elle a élevé les chevaux mais pour les concours hippiques. Mais dans les Ardennes, on en revient aux Ardennes. Mais elle s'embarque dans une vieille Ford quand elle a 23 ans pour traverser l'Afrique.
Oui, elle n'avait pas froid aux yeux.
Non. Elle a beaucoup, beaucoup voyagé.
Ça rappelle, oui.
Elle est allée à la chasse à l'ours en Russie.
En Russie.
Elle a chassé aussi le tigre. Elle était garçon manqué.
D'accord. C'était un bon fusil aussi.
Oui, c'est ça.
Elle l'a eu comme cadeau pour sa communion.
C'est ça,
D'habitude, on offre autre chose. Ton père l'a équipé déjà d'un fusil.
Oui, mais son père l'avait élevé comme un garçon, un peu.
C'est très bien. Et Elisabeth Prévost,
oui.
Et donc, on va maintenant laisser la parole un peu à François Sureau,
oui.
Qui va se présenter, mais qui nous dit que j'ai voyagé toute une année dans la forêt des Ardennes. L'hiver, on n'entend pas d'autre bruit que le craquement des branches mortes ou celui des plaques de neige qui s'effondrent et glissant par paliers du plus haut des sapins presque noirs, se dispersent en fontaines blanches et glacées. Se souvient François Sureau au seuil de ce bref récit. Tout de suite, nous sommes avec lui dans la forêt des Ardennes et c'est un guide extraordinaire. Se campant en l'âge de 20 ans et des poussières, jeune appelé affecté à Sedan, en lisière de ces bois qui évoquent au jeune homme les forêts enchantées de son enfance. Un an dans la forêt. Le titre de ce livre intensément méditatif, grave et vibrant évoque ce moment de la vie de l'écrivain, qui est aussi avocat, et il s'applique tout autant à un épisode de la vie de Blaise Cendrars. Épisode quand même peu connu, que l'on découvre grâce à lui, vu la vie qu'il a passée.
Oui, parce que c'est une fiction, mais c'est quand même d'après la réalité.
La réalité, et nous devinons bien que nous avons affaire là à une forte personnalité, comme Elisabeth, on va
les
dire.
Deux.
Et puis même aussi grâce à François Sureau. Oui, il fallait qu'il soit un peu du même bois pour comprendre beaucoup de choses et évoquer beaucoup de choses aussi. L'année 1938, que l'auteur de Moravagine passa, 40 ans avant François Sureau, dans cette même forêt ardennaise. Dans la maison familiale d'Elisabeth Prévost, une jeune femme...
Qui s'appelait Les Aiguillettes.
Les Aiguillettes, dont il avait fait la connaissance quelques mois plus tôt à Paris. Il avait fait la connaissance un soir à Paris, à un café... Au zinc, que l'on buvait du café, pas que du café, pas de la tisane, quelqu'un les a présentés et ce fut, on va dire, le coup de foudre, mais un coup de foudre, on va dire, au ralenti, si on peut dire.
Oh, je ne sais pas, parce qu'en fait, ils se sont bien retrouvés, là.
Bon, ils se sont bien retrouvés.
Parce que c'était quand même deux aventuriers et ils avaient des fortes personnalités.
Tout à fait.
Et je pense qu'ils se retrouvaient bien, là. Ils étaient chacun à leur place, mais ils se comprenaient quand même.
Il faut dire qu'en 1938, Blaise Cendrars a 51 ans.
Oui, puis elle est beaucoup plus jeune.
Il est un bourlingueur. Alors, bourlingueur, c'est un verbe, c'est un de ses romans,
bourlinguer. Oui.
C'est-à-dire, dans ce livre, il évoque plusieurs ports, le climat, il décrit la mer, la vie des marins. Qui dit port, dit entrer au port et quitter le port. Ce sont des sorties, des allées et venues sur les océans de par le globe. On va dire que c'est mener une vie aventureuse dans divers pays. Bourlinguer, c'est un de ses grands succès. Il est le bourlingueur et l'un des écrivains les plus connus du temps. Mais c'est quelqu'un qui est triste et qui n'arrive plus à écrire. Il a une vie déjà très difficile. On verra
que
Suisse, il s'est retrouvé en Mandchourie. Il a bougé, vous alliez dire.
Oui, mais parce que quand même, quand il est allé chez Elisabeth, Il collectionnait quand même les exploits d'huissier. Il était un peu pourchassé par les huissiers.
Oui.
Ça lui a permis d'être très discret pendant un an et demi, parce qu'il était pourchassé par les huissiers quand même.
Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez rappelez que Balzac devait écrire parce qu'il y avait les huissiers qui attendaient
à
la porte d'entrée pour le récupérer.
Oui, c'est ça.
Ah, oui. Un soir, un ami lui présente Elisabeth Prévost. Elle a 27 ans.
Lui,
je rappelle que lui a 51 ans. Elle a déjà traversé l'Afrique, comme vous avez dit plusieurs fois. Elle est belle, riche, c'est une aventurière. Et pendant un an, Cendrars part vivre avec elle dans la forêt des Ardennes, où elle élève des chevaux.
Oui, des chevaux de course.
Et grâce à elle, auprès d'elle, en vivant avec elle, en se rapprochant d'elle...
Il a repris le goût et l'écriture.
Voilà. Il a repris le goût à l'écriture, il épuise de l'enthousiasme et donc il se remet au travail.
Voilà, parce qu'il était malheureux à l'époque et incertain, il ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie.
Voilà. Alors ils décident ensemble d'organiser un tour du monde à la voile.
Oui, c'est ce qu'il voulait. Oui, il voulait faire même un film sur les chevaux. Mais ils n'ont jamais fait tout ça.
Non, mais on s'organise, on prépare. Mais voilà 1939 et c'est la guerre. La Seconde Guerre mondiale éclate. Cendrars quitte Elisabeth presque sans un mot.
Oui, brusquement quand même.
Brusquement. Mmh. Pour s'engager, mais l'armée ne le reprendra pas. il est âgé.
Et puis il est mutilé.
Il a perdu l'avant-bras en 1915 lors de l'assaut de la ferme de Navarin en Champagne. Et ils ne se reverront plus.
Mais ils s'écriront quand même.
Ils s'écriront.
Parce qu'on a retrouvé...
De correspondance.
Oui, mais alors on a retrouvé 38 lettres qui étaient cachées dans une botte pour monter les chevaux, qui étaient dans une malle.
Voilà.
Que 38 lettres.
Au moment où
l'Aiguillette, la propriété d'Élisabeth Prévost, a pris feu.
Oui.
Donc, ils ont trouvé cette malle, et dans cette malle, il y avait une botte. Et dans cette botte, il y avait les 38 lettres.
Et cette propriété...
D'échange, de correspondance d'échange.
Cette propriété a été détruite par les Allemands en 40 aussi.
Oui, elle avait déjà quand même morflé un petit peu.
Ah oui, les Ardennes, c'est un lieu de passage.
Ah, c'était le passage, oui.
C'est pas que des chemins remplis d'ivresse,
oui,
quand même.
Oui, c'est ça. Hein. Ah oui.
Nul ne sait ce qu'il y a eu entre les deux pendant cette année. Qui
non, elle écrit après. Elle ne parle jamais de leur relation.
Tout à fait. Mais c'est une rencontre qui est, comme on dit aujourd'hui, qui est magique.
Ah, mais oui.
Magique. Mais elle est fugace. Mais pour les deux, elle a été déterminante.
Bien sûr. Parce que lui, il a repris le goût à l'écriture d'un seul coup.
Grâce à elle, oui, la muse était là.
Oui.
Dans des notes trouvées après sa disparition, ce que vous dites, Élisabeth Prévost écrit « Blaise Cendrars est l'homme qui a le plus marqué mon cœur et mon esprit. »
Oui, qui a marqué pour toute ma vie, l'être qui marqua le plus mon cœur et mon esprit.
Ben, il faut le faire.
Oui. Ah ben oui, je pense qu'elle s'est rendue compte de ce qu'il lui avait apporté. Mais elle aussi lui a apporté beaucoup. Hein.
La preuve, puisqu'il reprend le stylo
ou la
machine à écrire.
Oui, parce que quand il est arrivé chez elle, parce qu'elle lui avait fait un plan trouver,
garde.
Et lui...
Oui. Gare du Nord,
oui, c'est ça, voilà. Et lui, il arrive avec son Alfa rouge.
Voilà.
Qui était avec sa machine à écrire.
Un peu bricolée.
Oui, c'est ça.
Oui, adaptée pour conduire d'une seule main.
Oui, c'est ça. Mais c'était une voiture décapotable.
Oui.
Donc,
une voiture
il arrive avec sa valise et une machine à écrire.
Voilà.
Et s'installe chez elle.
Alors, je pense que le cadre est important. On peut revenir sur la forêt, si vous
voulez.
Oui,
bien sûr.
Parce que dès le début, Sureau parle de son amour pour la forêt, le refuge, etc. Combien d'écrivains ont parlé de la forêt? Et la forêt des Ardennes est une forêt magnifique aussi, que je connais, très peu.
Des sapins mélancoliques.
Voilà.
Des houes rouges, roux et rouges, c'est véritablement en automne, c'est véritablement très beau.
Alors, situons cette forêt, si vous le voulez bien, on est dans le Grand Est.
Oui, c'est ça.
Voilà, la forêt domaniale de la Haute Chevauchée, c'est un très beau nom, est un haut lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale, tranchée, etc. Mais pas seulement, elle offre aux promeneurs un cadre privilégié pour se ressourcer au cœur d'une région naturelle, l'Argonne. Et si on pense géographie, on se dit qu'à l'est du bassin parisien, entre les départements de la Marne, de la Meuse et des Ardennes, on conseille d'emprunter cette route, dite la Haute Chevauchée, on retrouve les chevaux,
bien sûr,
pour y découvrir une forêt domaniale de caractère. La superficie de 1000 hectares, elle rejoint la longue liste des forêts mémorielles de l'Argonne, région marquée par 4 ans de guerre de septembre 14 à septembre 18. Elle avait été aussi un lieu de bataille en 1870, et puis ensuite, 3 jamais de 103, hélas, 1940 et puis 44. Il y a beaucoup de cimetières militaires. Si ces bois pouvaient parler, et c'est bien de laisser la parole aux arbres, ils nous conteraient sans doute l'histoire de cette jeunesse française, allemande, italienne, américaine et tchécoslovaque qui s'est battue sous ses yeux.
Et qui ont perdu la vie.
Et beaucoup qui ont perdu la vie. Et cette forêt, donc, ne se résume pas seulement à son passé historique. Elle est au cœur d'une région naturelle, l'Argonne, caractérisée par la roche de son sous-sol, que l'on appelle la gaize, G-A-I-Z-E, c'est-à-dire appelée là-bas la pierre morte.
Oui.
Et c'est une roche sédimentaire silicieuse qui ne se trouve que dans 2 autres régions au monde, j'ai retrouvé, au Japon, curieusement, et en Écosse.
C'est des terres qui se trouvent voilà. sur lesquelles poussent des forêts.
Voilà.
D'accord.
Cette forêt, alors on a interrogé un forestier de l'Office national des forêts, et ce monsieur, monsieur Rossin, R-A-U-2-S-I-N, déclara « Cette forêt a quelque chose de plutôt rare. Son terrain est constitué d'une roche tendre et acide, est un sol de gaze. On y retrouve les mêmes essences qu'au Pays Basque ou en Bretagne. Comme le chêne Cécile, attention, S-E-2-S-I-L-E, et non pas Cécile le prénom, la fougère aigle ou encore la myrtille. Ce que j'aime dans cette forêt, c'est son côté champêtre, comme Sureau, comme beaucoup d'autres. On est à la campagne, avec des bonnes bottes, on marche, avec ses petits ruisseaux, ses ravins et ses grands peuplements pouvant aller jusqu'à 40 mètres de haut. C'est vous dire que c'est une forêt qui est bucolique aussi. Elle est coupée de nombreux ravins.
Et elle a plusieurs essences quand
et
même.
Et plusieurs essences. Mmh. Et certains ont été même aménagés par les moines autrefois de la Chalade pour la pisciculture.
Ah oui.
Il y avait des monastères.
Oui, oui.
La forêt a connu l'essor de la verrerie pendant plusieurs siècles. Les charbonniers jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand même.
À l'époque,
et
oui.
toute une petite économie comme les balais en bouleau de Bourreuil par exemple. Mais aujourd'hui, elle permet de fournir du bois d'œuvre de chêne de grande valeur, dont certaines pièces sont destinées à la tonnellerie, et des bois d'industrie qui trouvent un usage dans les usines de panneaux, de particules et papeteries proches. C'est une très belle histoire pour cette forêt. Et dans cette forêt, donc, ils vont s'abriter, et Sureau va aussi s'abriter quand il fera son service militaire à Sedan. Eh bien, ce sera la forêt pour, comme qui deviendra un terrain de manœuvre pour bivouaquer le jour et la nuit, dans le brouillard d'automne, dans le froid, ce que l'on dit, ce qui endurcit pas mal, tout en se souvenant que ce lieu d'histoire attire chaque année des milliers de touristes. Et les touristes qui viennent s'ajouter aux visiteurs locaux qui viennent y pratiquer leurs loisirs. Les sentiers sont balisés. Nous plongeons dans l'histoire de la Grande Guerre,
c'est
hélas.
Ça, voilà pourquoi il y a beaucoup de touristes.
Beaucoup de tourisme.
Qui vont là-bas, oui.
On découvre des ossuaires de la Haute Chevauchée, un monument qui est dédié à. Qui rassemble les restes de 10 000 soldats inconnus. Le Kaiser Tunnel, c'est-à-dire le tunnel de l'empereur d'Allemagne, qui est impressionnant, qui est classé monument historique. Et sur 1 kilomètre d'eux, on peut visiter le ravin du Génie. On imagine Sureau et on imagine aussi Sandrard et aussi, bien sûr, Elisabeth qui se promène, qui, eh bien, ils n'ont pas encore vu les ravages de la Seconde Guerre mondiale.
Non, ça n'a pas commencé
encore. On se souvient de la première guerre franco-allemande de 70, qui a été très meurtrière, on l'a oublié. Et la guerre de 14, bien sûr,
bien évidemment.
Le ravin du Génie, qui est un musée à ciel ouvert, entretenu par une association de patrimoine. Cimetière de la Forestière, aussi, soldats, et le carrefour de la Croix de Pierre. Tout, c'est un lieu de nature et d'histoire, et de géographie.
Géographie, oui, tout se retrouve.
Et de géographie, et tout se retrouve. Les ravins, les tranchées qui sont conservées pour l'étude de la biodiversité.
Ah oui.
Donc, c'est une forêt domaniale, c'est une forêt un peu laboratoire. C'est ce qui plaît, nous pensons aussi, à notre ami Sureau, qui, dès l'enfance, a connu cette forêt qui lui est familière, presque familiale.
Oui, oui.
Et on comprend qu'il ait choisi ce sujet un peu original de cette année, d'ailleurs le titre le dit, « Un an dans la forêt ». C'est un récit. Et on se promène avec lui, et la forêt est au cœur des retrouvailles entre Elisabeth et l'écrivain qui, lui, eh bien, il doit sa célébrité très très tôt, mais la guerre de 14 a laissé beaucoup, beaucoup de traces. Et c'est quelqu'un qui sent le feu, on va dire, qui a de la verve.
Oui.
Il y a du bouillon, si on peut dire l'expression, et son style, ce style s'adapte bien à certains événements, certains moments de la guerre, par exemple à des attaques. Ce n'est pas le style de Sureau, qui est beaucoup plus romantique, plus polissé. On prend le temps de lire, oui, oui. d'écrire, de penser. Chez Sandra, les phrases jaillissent comme des bombes. Exemple, par exemple. Soudain, un avion s'envole dans une grande pétarade. Point. Les nuages l'avalent. Point. L'aulne roule par derrière. Et les peupliers de la route nationale tournent comme les rayons d'une route vertigineuse.
Les phrases sont courtes,
mais hachées, mais
oui, percutantes. Percutantes, oui, oui, oui.
Les collines dégringolent. Rien
ah
que
oui,
ça.
Mais c'est ça, voilà.
Les collines dégringolent. C'est vu. La nuit cède sous cette poussée. Le rideau se déchire.
Oui.
Tout pète, craque, tonne, tout à la fois. Embrasement général. Mille éclatements, feux, des brasiers, des explosions. C'est l'avalanche des canons, le roulement, les barrages, le pilon. Sur la route des départs se profile éperdu des hommes obliques, l'index d'un écriteau, un cheval fou, battement d'une paupière, clin d'œil au magnésium, instantané rapide. Tout disparaît. On a vu la mer phosphorescente.
C'est une véritable mitraillette. Hein, quand,
tout à fait.
Ah, mais c'est incroyable.
Il écrit par rafale, on
oui,
peut
c'est
dire.
Ça, voilà, c'est comme une mitraillette.
Voilà. Et mitrailleuse aussi. Hélas, oui. hélas oui. Clin d'œil au magnésium, instantané rapide, tout disparaît. On a vu la mer phosphorescente des tranchées et des trous noirs. Nous nous entassons dans les parallèles de départ, dans les tranchées pour attaquer. Nous sommes fourcreux, hagards, mouillés, éreintés et vannés. Quel vocabulaire! Le dictionnaire est utile.
Et nous, on en sort un peu vannés parce que, sincèrement, on prend des coups. Avec.
On prend des coups.
Oui,
on a l'impression de s'y trouver.
Mais oui.
On a l'impression de s'y trouver. Et on est loin, par exemple, dans ce texte, de cette description, par exemple, sur la Provence.
Ah ben, ça n'a rien à voir. Oui.
On est loin d'Aix-en-Provence.
Oui, oui. Où il a vécu.
Où il a vécu. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on fait appel à Georges Bizet pour nous emmener faire un tour dans la région d'Arles, avec la suite numéro 1. Thank you. Nous nous retrouvons avec France Passureau, Blaise Sandrard et Elisabeth Prévost, et nous allons maintenant faire connaissance un peu plus avec l'auteur de La main coupée, à savoir Blaise Sandrard.
Blaise Sandrard et Elisabeth Prévost, ou un choc heureux pour ces deux fortes personnalités.
Voilà, un choc heureux pour ces deux fortes personnalités.
Bourlinguer, oui. Verbe qui lui va comme un gant, réchauffant sa main amie.
Bon, sa main amie, ben, c'est la main qui lui reste, c'est la main gauche, voilà. Puisqu'il a été blessé le 28 septembre 1915 en Champagne lors de l'assaut de la ferme de Navarin. Il y a un très très beau monument, il y a eu beaucoup de morts des deux côtés, surtout français malheureusement, et il a pris un obus et donc l'avant-bras a dû être amputé. Et donc il l'a gardé, il a fallu se rééduquer, il était droitier. Donc, la main amie, ben, c'est la main gauche qui lui reste.
Il ne lui reste plus que ça.
Et quand même, il est né à quelle époque ?
Alors, il est né le 1er septembre 1887 à La Chaux-de-Fonds. C'est une ville frontière avec la Suisse.
C'est ça.
Voilà.
Presque frontière, en face, pas loin en France, on va dire par loin de Mèche, de Pontarlier, c'est ça. C'est une ville qui est très connue. Qui fait combien d'habitants à peu
37
près
37 000 habitants.
37 000 habitants, voilà. C'est la Suisse romande, on parle français, bien sûr. Et puis, La Chaux-de-Fonds. Qui dit La Chaux-de-Fonds, on pense tout de suite à un certain grand musée.
Parce que c'est-à-dire qu'il y a le musée international de l'horlogerie.
Oui, qui est remarquable.
Et puis, il a vu naître aussi cette ville, Le Corbusier.
Ah, alors là, Le Corbusier, c'est l'histoire de l'architecture. Oui, Le Corbusier.
Ah ben oui, il a beaucoup travaillé en France.
La cité Marseille, partout. La cité heureuse, voilà. Et puis un autre génie.
Constructeur automobile, Louis Chevrolet.
Louis Chevrolet qui émigrera aux États-Unis.
Voilà, c'est ça.
La fameuse voiture, la fameuse Chevrolet.
Il est né dans une famille bourgeoise.
Oui.
Il vit une enfance rebelle au sein d'une famille désunie.
Hélas.
Les parents ne s'entendent pas très bien.
Oui, malheureusement.
Voilà, c'est triste quand même. Qui voyage beaucoup, qui va de Naples à Bâle.
On va à Bâle, qui est une ville remarquable, très très belle au bord du Rhin, au carrefour de la France, de la Suisse et de l'Allemagne. Bâle, Basel.
Oui. Et avant, il s'installe à Neuchâtel.
Neuchâtel, qui est une très jolie ville aussi, qui faisait partie. C'était une antenne de l'Empire de Prusse,
c'est vrai.
C'était prussien, pour au point de vue commerce aussi, puis avoir un regard un peu sur pas loin de la France en même temps. Voilà, Neuchâtel.
Et alors, dès l'âge de 17 ans, il ne se plaît pas très bien dans sa pension,
non.
Donc il s'évade.
Il s'évade, il s'en va.
Et il aboutit en Mandchourie.
Oui, en Mandchourie.
Au service d'un trafiquant de diamants en 1905.
Oui. Dès le début, c'est une vie déjà très pittoresque, avec des surprises.
Il était rebelle quand même. Hein,
c'est un caractère rebelle, on le sent déjà, une personnalité déjà affirmée. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait
après,
encore?
Quand il rentre en Suisse, après des études de commerce,
il
est mauvais élève quand même. Hein.
Oui.
Il est envoyé en Russie pour assister à un horloger suisse de Saint-Pétersbourg.
Ah oui, et oui, l'horlogerie envoyait des horlogers, c'était important, Saint-Pétersbourg était très important, et donc il travaille avec lui.
Voilà,
donc il voit déjà du pays.
Oui. Et c'est à cette époque qu'il commence à écrire et fait imprimer en 14 exemplaires son premier livre, La légende de Novgorod.
Oui, à 14 exemplaires, c'est déjà le début.
Et qui ne sera retrouvé réédité son premier livre. Là, c'est ça. Alors, qui sera réédité en 1996.
Oui.
En 1907, il rentre en Suisse.
Il rentre à la maison, on l'a rappelé.
Et il fait des études de médecine quand même.
Il commence des études de médecine, donc il avait fait, comme on disait en Suisse avant, il avait fait ses humanités, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat.
Voilà.
Donc il peut faire ses études de médecine. Mais
il arrête. Parce que...
Il ne va pas arrêter, c'est pas ça. Non, c'est pas
Alors
ça.
Après, il fait des études de lettres.
Oui.
Que finalement il abandonne aussi.
Oui, il tâte un peu de tout.
Et pour voyager à travers le monde.
Voilà,
avec des expériences et des rencontres de toutes sortes.
C'est un globe-trotteur, on va dire.
C'est ça, voilà.
Voilà. Très bien.
En 1911, durant son séjour à New York, cet esprit aventureux et curieux de tout rédige son premier grand et étrange poème.
C'est le
premier qu'on connaisse, d'ailleurs, intitulé « Les Pâques à New York ».
Les Pâques à New York. Ah oui, c'est un poème, c'est assez fascinant, qu'aime beaucoup Sureau. la ponctuation, elle a disparu, on va dire. C'est aussi le style. Le style est aussi percutant qu'on a lu tout à l'heure.
On reconnaît sa patte.
On reconnaît déjà sa patte, la Pâque à New York. Il se promène dans le centre de Manhattan. C'est quelqu'un qui sera à l'aise dans tous les milieux, aussi bien dans la haute société que dans les bas-fonds.
Oui. Mais ça vient aussi de son éducation.
Éducation helvétique aussi. Il l'a pas obligé. Ben oui. Enfin, helvétique, oui, c'est ça. Mais aussi la personnalité aussi.
Oui, oui.
Ce sont ces Suisses célèbres dont on oublie qu'ils sont Suisses et qui s'ouvrent. Pour eux, la Suisse est trop petite. Il faut qu'ils partent.
Il faut élargir un peu
le champ d'activité, quoi. Mmh. C'est ça.
Et il rentre à Paris, il vient à Paris.
Ah, il va à Paris.
Bon. Et il publie la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France.
Voilà.
Son poème.
Tout ça sera mis en musique plus tard. Donc c'est une enfance déjà, une adolescence particulière.
Ah oui, très animée quand même. Hein.
Très animée.
Parce que...
Beaucoup de chance.
Oui. On peut dire qu'il a eu la chance quand même.
Il a vécu dans des milieux qui étaient parfois dangereux. Il a échappé parfois à des situations, il a vécu des situations problématiques. Avec des fins parfois meurtrières. Il s'en est sorti.
Oui, c'est ça.
Il s'en est sorti. Et donc après, la guerre va arriver.
La guerre 14 éclate, oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'il fait?
Il s'engage comme volontaire dans l'armée française.
Il est suisse.
C'est ça, donc, n'oublions pas qu'il est suisse.
Donc, première année dans l'infanterie, et après... Il va dans la Légion étrangère. La Légion étrangère. Il signe son engagement à Paris, aux Invalides, au rez-de-chaussée, sous une des galeries qui borde la fameuse cour d'honneur.
D'accord.
Que l'on voit hélas pour des cérémonies funèbres. Voilà.
Et malheureusement, en 1915,
il y a le
régiment, au bout de combat de la ferme de Navarin en Champagne, il perd son avant-bras.
Il perd l'avant-bras.
L'avant-bras droit.
Voilà.
Et il faut l'amputer.
Il faut l'amputer et il va réapprendre à vivre. Et pour un écrivain, c'est quelque chose de... C'est comme pour un chef d'orchestre qui ne peut pas... qui perd l'ouïe,
c'est ça.
Par exemple. Mm-hmm. Ou même perdre un bras aussi. Et donc, il va reprendre à vivre avec sa force de caractère, sa volonté.
Sa main de poète.
La main de poète, la main amie, il dira. Et il va remonter parce qu'il est. C'est un homme qui est foudroyé aussi par ce qui vient de lui arriver.
D'ailleurs, il a écrit L'homme foudroyé.
L'alcool aussi a joué un rôle.
Alors, c'est pour ça que moi, ça me rappelle Hemingway.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est le même style d'Orme.
Le même style, parce que comme s'ils étaient influencés par le tir des armes automatiques.
En plus, ils ont
un vocabulaire foisonnant.
C'est quand même incroyable. Puis ils ont été reporters pour la France,
oui.
L'Angleterre.
Oui.
C'est
correspondants
quand même...
de guerre.
Ah, mais oui, ils ont beaucoup de similitudes. Pour moi, ça m'a sauté aux yeux.
C'est vrai, c'est exact. C'était vrai, ce sont des globe-trotteurs et des baroudeurs et des aventuriers.
Et des bourlingueurs.
Voilà, ils suivent les batailles. Et Sandrart aimait à dire « quand je ne fais rien, je bois du noir ».
Oui, c'est ça.
C'est ça. Mmh. Donc on comprend que la rencontre avec Elisabeth. A arrêté cette période où il broyait du noir jour et nuit.
Il n'était pas bien à l'époque. C'est un drame pour lui d'avoir perdu son bras. Parce que, d'ailleurs, après, il écrit, quand il signera les autographes, il signera toujours de la main gauche.
Oui.
Parce qu'il faut qu'il s'habitue à travailler.
Oui, la main amie.
C'est ça, la main amie. Voilà,
la main
c'est
amie.
Ça.
Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer aussi l'amitié. Il va être réformé assez vite.
Ah oui, c'est forcément ça. Il ne peut plus...
Donc l'armée le réforme. Il voudra se réengager en 1939, mais il a pris de l'âge.
C'est plus possible.
Il est handicapé, donc l'armée ne le prendra plus.
Il refuse, bien sûr.
Et donc il va s'intéresser, il va se retrouver à Paris. Il va diriger aussi une maison d'édition, La Sirène. Il va rencontrer des écrivains, il va vivre de petits métiers, ça ne sera pas simple. Hein.
Ah non, il s'en verra, il va s'en voir. Hein.
Ah oui, il mangera de la vache enragée, hein, la bonne nourriture d'autrefois helvétique, et tous les souvenirs d'une vie assez bourgeoise quand même, où il était bien, où il était choyé et tout. Là, il raconte, mais oui, mais tout ça va alimenter ses romans,
ben voilà.
Va alimenter
ben oui, ça,
la
vie. Ça va lui servir de support.
Lui sert de support, et puis ensuite, il voyage.
Alors oui,
qu'est-ce qu'on peut dire beaucoup. De son voyage?
Ah ben, il va en Extrême-Orient,
il va
en Amérique,
oui.
Et il va jusque dans les forêts vierges du Brésil.
Oui. Oui, c'est un aventurier comme Henri de Montfred aussi.
C'est ça, ben voilà.
En voilà encore un. Kessel.
Kessel aussi, oui.
Voilà.
Oui.
Kessel, c'est ces personnalités qui étaient peut-être bien, mais en même temps bien nulle part, et qui se nourrissaient de paysages, d'aventures, de dangers. C'était des casse-cous en même temps. C'était des casse-cous.
Mais ils avaient besoin de ça.
Ils avaient besoin de ça, et très souvent, avaient un cœur très sensible, un cœur d'enfant.
C'est souvent le cas.
Voilà, c'est ça. Et c'est un auteur que l'on réédite, Blaise Cendrars. Il est dans la Pléiade aussi.
Ah oui.
Attention. Hein, il est dans la Pléiade. Et puis, on réédite depuis quelque temps. En livre de poche aussi, il y a La main coupée, il y a Pourlingué, il y a L'homme foudroyé. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Il y a L'or.
L'or aussi.
Ah ouais, parce que
L'or, lotissement du ciel.
C'est ça. L'or, il parle d'un millionnaire suisse.
Voilà.
Qui a été ruiné parce qu'il a cherché de l'or sur ses terres californiennes et il a perdu tout son argent.
Et ça s'est mal passé.
Ça s'est pas ça très s'est bien passé. Non. Donc, c'est l'histoire de son livre « L'or », voilà.
Et cette femme comprend que, tout de suite, disons que c'est l'instinct féminin, peut-être aussi, elle comprend que c'est un homme qui... elle comprend que Cendrars s'est aussi écouté. C'est un aventurier, mais il se pose et il réfléchit beaucoup.
Ben oui.
Elle comprend qu'il écoute comme personne. Et elle s'accommode bien du côté monstrueux qu'on trouve souvent chez les écrivains. Parce que même physiquement, c'est un personnage.
C'est pour ça que je disais que ça me rappelait Hemingway.
Oui, oui.
Parce que c'était pareil, hein, c'était un peu des ogres.
Coiffé, un visage buriné ou boucané, le regard plissé, la cigarette, l'éternelle cigarette au coin des lèvres, le béret parfois. Et bon, mais pendant un an, elle va l'accepter et lui va l'accepter telle qu'elle est. La différence d'âge, on le verra après, pour elle ne compte pas.
Oui, c'est ce qu'elle
pour
dit.
Elle,
hein,
à elle la dit. Fin, tout à la fin d'ailleurs, tout à la fin, et même elle va dire aussi ce que vous avez dit. Blaise Cendrars fut dans ma vie et pour toute ma vie.
Oui, c'est ça, voilà.
Attention.
Oui. Toute sa vie. Oui, c'est-à-dire qu'il lui a quand même beaucoup apporté.
Qui marqua le plus mon cœur, une chose, et mon esprit, ce sont des mots forts.
Ah oui.
Blaise Cendrars, parce qu'elle a une vie, elle a eu beaucoup de
elle
rencontres.
Elle a une vie très riche, elle
très
aussi.
Riche
hein.
Et tout.
Ah oui.
Ma vie et toute ma vie, c'est très. Elle insiste bien. Quant à la question
d'âge,
pour elle,
ça n'a aucune importance.
Voilà, je ne crois. D'ailleurs, elle dira, voilà la phrase, je ne crois pas au décalage horaire dans ce domaine.
Dans ce domaine, voilà.
Oui. Voilà. Et ils se rencontrent le soir. La première rencontre, c'est le soir du 7 février 1938 dans un bistrot. Voilà. Alors que lui, il est déjà dans la solitude et dans la détresse.
Mais oui.
Presque une épave, on va dire. Presque une épave.
En plus, il a des problèmes financiers, il a tout pour lui.
Il est dans la dèche.
Oui, mais oui. C'est pour ça qu'elle lui offre un peu une porte pour
sortir. C'est sa bouée de sauvetage.
Mais c'est ça.
Voilà. Et puis en même temps, comme le dit Cendrars, il imagine ses premiers pas dans cette forêt immobile, silencieuse, qu'on dirait sans frontières. Et oui, la Belgique est tout proche, l'Allemagne un peu plus loin. Est-ce qu'il a été sensible à son caractère enchanté, s'interroge François Sureau. Ça lui rappelle un peu les forêts de Sologne et pourquoi pas le Grand Maulne, avec le bal des enfants.
C'est ça, oui.
Et il y a tout ça. Et Cendrars, qui a souvent oscillé entre le grand monde et les bas-fonds, il retrouve l'inspiration et il va reprendre la plume pour le poète François Villon, qui était aussi patrice.
Ah ben oui.
François Villon. Et un récit sur Lampio, un bandit brésilien. Il choisit bien ses sujets. Hein, c'est le même club.
C'est ça.
Bienvenue au club.
Oui, c'est ça.
Et puis, en 1938, va paraître La vie dangereuse.
Voilà.
La vie dangereuse. Il faut vivre dangereusement, comme on disait, mais avec lui, il puise donc l'enthousiasme et il se remet à écrire. Et nous avons dit que...
Puis avec elle, quand même, pendant qu'elle dresse ses chevaux, là, lui, il écrit. Mais en fait, elle parle d'un Noël mémorable sous la neige qu'ils ont vécu ensemble.
Oui.
Ils vont chercher des cigarettes en compte de contrebande en Belgique.
Oui, mais pourquoi pas?
Sandrard joue de l'harmonium le dimanche à l'église,
oui,
pendant la messe.
Oui.
Alors, en bon mécréant, il ne s'agenouille pas au moment de l'élévation.
Oui, puis elle aussi, elle joue aussi.
Oui, mais c'est elle. Donc, elle raconte que lui, il le faisait. Voilà,
il c'est le fait. Tout, voilà. Oui, c'est un personnage.
Ben oui.
C'est un personnage. Eh bien, nous allons partir en Provence, dans les Cévennes, avec un extrait de Vincent d'Indy. C'est le fameux, qui est bien connu à l'étranger, en France, on l'a beaucoup oublié. C'est une mélodie très belle sur un chant montagnard. Nous nous retrouvons avec nos trois amis. Et puis, pour bien que ce soit clair, vous nous pardonnerez de répéter, parce qu'il faut bien savoir qui c'est qui a écrit ceci. Est-ce que c'est François Sureau, ou bien Blaise Sandrard, ou bien donc notre héroïne,
Élisabeth
Prévost. Blaise Sandrard, qui est né Frédéric-Louis Saussure.
Saussure, c'est ça, voilà.
S-A-U-S-E-R, oui. Et qui a pris comme pseudonyme Blaise Sandrard.
D'ailleurs, il a pris d'autres pseudonymes pour écrire. Alors,
Au début, il y avait Jack ou Johnny.
Oui, je ne me souviens plus
des pseudonymes. Et Sandrard, ça rappelle les cendres chez lui.
Ah, oui.
C'est le feu, c'est une âme de feu.
Tout dire, hein, ça veut tout dire.
Blaise, on pense à Pascal, peut-être, c'est plus reposant. Mais enfin, ou à la Sainte Blaise aussi, début février. Donc, nous reprenons deux, trois choses qui sont importantes pour bien fixer ces trois personnalités.
Voilà, l'écrivain François Sureau écrit et raconte avec fascination le télescopage décisif de ces deux personnalités.
Voilà.
Elle a 30 ans, lui 51, mais qu'importe.
Oui, c'est un télescopage comme on a dit au début en sous-titre, c'est un véritable choc. Ce choc, mais il n'a pas fait de victime, il a fait deux heureux.
Oui, ils ont vécu un moment parfait. Voilà. Alors, elle dit, je ne crois pas au décalage horaire dans ce domaine.
Voilà.
Cette audacieuse voyageuse qui a déjà eu 1000 vies.
Oui.
Quand ton amie commun elle est présente, elle rentre de 11 mois d'expédition en Afrique, on avait dit tout à l'heure, après avoir chassé l'ours en Russie.
Oui.
Elle a traversé l'Europe en roulotte.
Oui. Ça rappelle un peu Out of Africa avec Clarence Blixen.
Oui, c'est ça, mais pas au même endroit.
Non, mais comme esprit aussi.
Oui, elle était aventurière aussi.
Aventurière.
Oui. Mmh. Et c'est vrai qu'elle a traversé l'Europe en roulotte pour rejoindre la France. Ainsi, comment ne pas être galvanisé par cet électron libre ? L'auteur décrit à cette époque Sandrars comme un homme malheureux et incertain.
Voilà.
Il avait perdu en septembre 1915 son avant-bras droit et aussi le goût d'écrire, qu'il va retrouver à côté de celle dont on parle dans son livre, l'homme foudroyé et qu'il nomme Madame Mon Copain.
Madame Mon Copain,
Madame Mon Copain.
Oui, mais c'est tout. Mais ils ne s'embarrassent pas de littérature.
Mais non, mais d'ailleurs, on ne comprend pas bien leur relation parce qu'il dit Madame Mon Copain, mais elle ne parle pas de leur relation vraiment intime. Elle n'en parle pas.
Non, on ne sait pas.
On ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais,
c'est un mystère. C'est pas mal de laisser le mystère.
Non, c'est mieux.
C'est mieux. C'est bien. C'est comme les choses étant ce qu'elles sont. Et nous, ce que nous sommes, ce n'est pas facile. Et puis, mon copain, voilà, bon. Et c'est bien qu'il y ait du mystère comme ça, parce qu'eux-mêmes sont mystérieux.
Oui, et puis ils ont cultivé ça aussi.
Ils ont cultivé.
Ah oui, c'est bien.
Ils ont cultivé, et puis ça va bien, ces deux personnages. On ne peut pas dire qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, mais ils vont bien ensemble.
Alors, je pense qu'ils vont bien pendant un moment, mais je pense que ça n'aurait pas dû perdurer dans le temps.
Non. Ils
avaient trop des personnalités trop fortes.
Il faut se voir avec des passages de solitude.
Voilà, c'est ça.
Il ne faut pas être toujours l'un sur l'autre.
Oui.
Non. Il faut pas. Non, on serait vite étouffant. Ça serait vite étouffant et lui étoufferait. Et on va revenir. Donc on va revenir avec François Sureau. On revient sur la rencontre. Quel était l'état de François de Sandrard lorsque, en 1938, il rencontre Elisabeth? C'est un homme malheureux et incertain.
Oui, c'est ce qu'on vient de dire, oui.
Il a 51 ans. Il ne présente pas l'apparence du jeune combattant éperdu à la manche vide qu'on voit sur les photos du Brésil. Et pas encore celle du vigoureux clochard réfractaire des dernières années qui ressemblait à l'un de ces troncs cassés qu'il faut bien autre chose qu'un coup de foudre pour entamer.
Pour l'abattre.
Voilà. Il est entre deux mondes. Comme la France, son pays d'adoption, il est entre deux guerres.
Oui.
Il n'attend pas la seconde avec autant d'espoir qu'il a attendu la première. Il sait à quoi s'en tenir. Il a épuisé les voies du combat comme celles du voyage. C'est beau cette phrase. Les voies du combat comme celles du voyage.
Ah, il a tout fait, oui. Oui.
Il a laissé la littérature pour le reportage et même s'il a connu des réussites exceptionnelles, donnant son panorama de la pègre, décrivant dans Paris Soir, au moment du premier voyage du paquebot Normandie, non pas la vie des salons, mais celle de la salle des machines.
Ah oui, le lieu obscur.
Voilà. Il doute de sa capacité à revenir à ce qui reste pour lui l'essentiel. Voilà, donc c'est quelqu'un de très profond. On pourrait faire des thèses, je pense que ça a déjà existé.
Oui, sûrement.
C'est quelqu'un qui peut nous faire beaucoup de choses. Et ensuite, donc, cette date du 7 février 1938, il est déjà dans la détresse, dans la tristesse. On ne le dit pas, mais aurait-il pensé au suicide?
Ah, c'est probable.
Probable.
C'est probable.
Mais peut-être une telle personne.
Oui, parce qu'il avait quand même des moments de désespoir assez profonds. Donc, ouais. Pourquoi pas, oui. Je ne sais pas s'il serait allé jusque-là, pourquoi pas, je ne sais pas.
Mystère.
Un mystère de plus.
Voilà. Élisabeth a raconté leur aventure, dont personne ne saura jamais la nature exacte.
Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, on ne connaît pas la relation intime qu'elle a eue avec Blaise Pascal, hein.
Lui a seulement parlé d'elle dans L'Homme foudroyé,
et la Madame Copin
en Diane de la Panne.
Oui, c'est
Diane de la Panne. Oui. Les curieux se reporteront au souvenir, entre guillemets, écrit par Élisabeth, publié et présenté par Monique Chefdor en 1997 dans un livre intitulé Madame mon copain.
Madame mon copain,
voilà,
oui.
Et qui aurait mérité une plus large diffusion. Je ne l'ai pas trouvé facilement, nous dit Sureau. Leur rencontre dans le petit hôtel de l'Alma, dont Sandrard avait de la peine à payer la note, ne ressortit pas au coup de foudre, mais à quelque chose de plus profond. À moins qu'il ne se fût agi de l'une de ces étincelles qui mettent le feu au chaume un certain temps après, ce qui arrive parfois. En provoquant cette rencontre, un ami avait l'idée de distraire Sandrard de sa mélancolie, d'une part, et de l'autre, d'aider Élisabeth à faire son chemin dans le monde des journaux et dans celui de la littérature.
Oui.
Donc, il voulait faire d'une pierre deux coups.
Il a réussi.
Voilà. Une recommandation de Sandrard valait de l'or.
Ah, voilà.
Ça ouvrait toutes les portes. Ils se virent à 10 h du soir dans une chambre du genre caserne, pourvue d'un lit en fer. La machine sur laquelle Sandrard tapait d'une seule main était posée sur une planche posée en travers du lavabo.
Ah oui. Très, très succinct comme truc.
Il s'en servira pour lui écrire ses premières lettres, toutes terminées par ce « main amie ».«
Main amie ».
Qui nous émeut tant. C'est sa main amie.
Oui.
C'est celle qui reste. Bien sûr, il buvait beaucoup, nous le savons, et il fumait à la chaîne les cigarettes brunes de la Régie française que l'on distribuait autrefois à la troupe.
L'armée, voilà. Oui, c'est ça.
Alcool et puis tabac. Alcool et puis tabac, mélange détonnant. Mais on ne peut pas l'imaginer sans cela, comme c'était l'époque.
C'est ce que j'allais dire,
c'était l'époque.
D'ailleurs, on fournissait des cigarettes à l'armée, donc...
Où on en fumait pas mal.
Oui, c'est ça.
Et donc, le voilà aux aiguillettes. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Dans les premiers temps, il revenait à Paris, convoyant dans sa voiture des sacs de pommes de terre récoltés là-bas et grâce auxquels il payait en nature ses notes au bar du père Lampen.
C'est ça.
Parce que, oui. Puis il ne revint plus. « Je puis rentrer demain ou jamais », avait-il écrit. C'était l'abbaye de Thélème, cher à Rabelais, une abbaye réglée par l'entraînement des chevaux, les conversations et la vodka, le dimanche à l'église. Élisabeth montait chaque matin ses 8 chevaux dès 7 h.
Ah oui.
Sandrard la rejoignait chaque jour à 11 h. Et appuyée aux lisses blanches, lisses LI2SES, la regardait passer des obstacles. Il fixait tous de ses yeux de lynx imaginaire. Voilà un peu la vie. Il y avait la chasse-cour aussi. Et ils étaient heureux finalement. À condition d'avoir une certaine distance.
Ils étaient proches de la nature aussi. Donc, je pense qu'ils avaient ce côté un peu écologiste à la valeur.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Nous savons qu'il est parti, qu'ils se sont quittés. Sandrard est parti.
Oui.
Et il a retrouvé une ancienne fiancée, Raymond Duchâteau, après la guerre, après 1939-45. Oui. Et une fois converti au catholicisme, il était protestant,
oui.
Après la guerre, il a fini par l'épouser à l'église Saint-Dominique, voilà. Et puis ensuite, il aida Raymond. Raymond va décéder. Et puis ensuite, Sandrard va décéder le 21 janvier 1961. Et ce sont les deux femmes, Élisabeth Prévost, qui va aider Raymond Duchâteau, qui a été actrice, que l'on trouve dans l'Hôtel du Nord aussi, qui a été proche de Louis Jouvet. Elle va l'aider pour trouver pour Sandrard une tombe au cimetière des Batignolles où il fut conduit après une messe à Saint-François-Xavier. Quant à Elisabeth Prévost, elle poursuivit sa vie aventureuse. En 1988-89, elle fit seule ce tour du monde dont ils avaient rêvé ensemble.
Qu'ils devaient faire, oui,
elle
c'est
était
vrai, oui.
Très anglaise de style et pleine d'humour, mais somme toute assez solitaire.
Elle aussi.
Et voilà, ce sont deux solitaires finalement.
C'est pour ça qu'ils s'étaient bien trouvés.
Tout à fait. Et Elisabeth est décédée à l'île d'Ouat en 1996. Sureau nous dit que je n'ai jamais vraiment tenté de rencontrer des écrivains, mais j'aurais aimé la connaître.
Ah oui.
Et ce que je viens d'écrire m'a été dicté aussi par ce regret. Et à la fin de ces brefs souvenirs, on peut lire et relire et reentendre, si vous le permettez. Blaise Sandrard fut dans ma vie et pour toute ma vie l'être qui marqua le plus
mon cœur et mon esprit.
Et ce fut rédigé cette année, enfin l'an dernier, à Sedan, février 2022.
Voilà.
Merci, Monsieur Sureau. Et merci à vous tous en vous souhaitant de continuer
de bonnes fêtes de fin d'année.
Et de bonne année aussi.
Et de bonne année, oui.
Et puis merci à Jimmy que nous remercions. Et en musique, ben, quelqu'un aussi qui avait beaucoup roulé sa bosse, c'était Leonard Bernstein que nous retrouvons dirigeant une de ses compositions, l'ouverture de Candide. Au revoir, merci.
Thank you.